Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le ministère des Finances a annoncé une baisse du déficit des finances publiques en octobre 2011. Les avions militaires CASA sont maintenus au sol après des problèmes de moteur. L'équipe du FC Barcelone dispute ce mardi soir son match retour contre le Victoria Plzeň dans le cadre de la phase de poule de la Ligue des Champions. Ce mardi, le ministère des Finances a annoncé une baisse du déficit des finances publiques en octobre 2011 par rapport au mois de septembre. Le montant du déficit a été ramené à 91,5 milliards de couronnes, environ 3,6 milliards d'euros, comparé à 105,1 milliards de couronnes, environ 4,2 milliards d'euros enregistrés en septembre dernier. Pour 2011, le gouvernement prévoyait un déficit d'un montant de 135 milliards de couronnes. Ce mercredi, la Chambre des députés entamera l'examen du projet de budget de l'État pour 2012. Le montant de son déficit doit s'élever à 105 milliards de couronnes, soit 3,5% du PIB. Comme annoncé au début de la semaine par le ministère des Finances, la croissance de l'économie tchèque se ralentira au cours de l'année prochaine et ne dépassera pas 1%. Le Premier ministre Petr Nečas a alors indiqué que le budget 2012 serait révisé en fonction des prochaines statistiques publiées en janvier. La police tchèque a annoncé ce mardi avoir démantelé un réseau de trafic de cocaïne entre la République dominicaine et des pays de l'Union européenne via la République tchèque et avoir arrêté ses principaux organisateurs. La drogue a été destinée au marché noir à Prague ainsi qu'à celui dans d'autres pays de l'Union européenne. D'après le chef de la brigade antidrogue de la police tchèque, Jakub Friedrich, l'arrestation des trois principaux organisateurs de nationalité tchèque et iranienne a eu lieu à Prague. Elle avait été précédée par celle de sept trafiquants tchèques, six femmes et un homme, aux aéroports de Francfort et de Bruxelles. 7 kilos de cocaïne ont été saisis à cette occasion d'une valeur marchande d'environ 12 millions de couronnes, 481 000 euros. Selon la police tchèque, les trafiquants arrêtés en Allemagne et en Belgique ont déjà été condamnés à 3 ans de prison. Les principaux organisateurs encourent une peine de prison comprise entre 10 et 18 ans de prison. Le chef de l'état-major de l'armée tchèque, Vlastimil Picek, a ordonné que les nouveaux avions militaires CASA soient tous maintenus au sol jusqu'à nouvel ordre après qu'un engin a connu un problème de moteur lors de l'atterrissage. Les 4 avions seront immobilisés le temps qu'une analyse permette de déterminer la cause du problème. Ils ont été achetés en 2009 par l'armée tchèque dans le cadre d'un contrat critiqué pour son manque de transparence et son prix. C'est la 3e fois de l'année qu'ils sont cloués au sol. L'équipe du FC Barcelone, emmenée par Lionel Messi, dispute ce mardi soir son match retour contre le Victoria Plzeň dans le cadre de la phase de poule de la Ligue des Champions. Au match aller en Catalogne, les Tchèques se sont inclinés 2-0. Le match commencera à 20h45 au stade Eden, que se partagent normalement le Slavia et les Bohemians, le stade de Plzeň ne répondant pas aux normes de l'UEFA. Pour l'instant, Plzeň a fait un match nul et perdu 2 fois pour sa première participation à la Ligue des Champions. Côté météo, mercredi, jour de la commémoration des défunts, le ciel en République tchèque sera nuageux avec de belles éclaircies. Les températures maximales se situeront autour de 15 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Aujourd'hui, au sommaire de notre émission, nous parlerons d'abord de l'appel d'offres atomique. L'appel d'offres nucléaire, vous le savez, un très important appel d'offres qui concerne la centrale nucléaire de Temelín et dont Guillaume Narguet nous parlera plus en détail puisque désormais nous savons quand les offres doivent être déposées. Et puis nous reviendrons ensuite sur le vote hier à l'UNESCO, un vote sur l'adhésion de la Palestine à cette organisation des Nations Unies. Et c'est la République tchèque qui a fait partie des 14 pays qui ont voté contre cette adhésion. Nous reviendrons sur le sujet avec Pavel Fischer, le directeur politique du ministère tchèque des Affaires étrangères. Voilà pour le sommaire et je vous souhaite une très bonne écoute. « 6 000 pages, fruit du travail de 3 ans de plus de 400 spécialistes. La documentation devant servir à la formulation des offres relatives à l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelín a été remise ce lundi aux 3 groupes candidats par le groupe énergétique tchèque ČEZ. Les offres devront être déposées donc pour le 2 juillet 2012. La très importante commande, dont le montant total est estimé à 8 milliards d'euros pour la construction des 2 nouveaux réacteurs, devrait-elle être attribuée en 2013. Guillaume Narguet pour plus de détails.
Pour des raisons administratives, mais aussi parce que la demande d'électricité pourrait être moindre dans un proche avenir, la date prévue de l'achèvement de la centrale de Temelín a été repoussée en février dernier de 5 ans, concrètement à 2025 au plus tard. Pour autant, le projet prévoyant la construction de 2 nouveaux réacteurs, qui s'ajouteront aux 2 autres déjà existants, n'a pas été enterré et reste bien d'actualité. La réception la semaine dernière à la Maison-Blanche du Premier ministre tchèque Petr Nečas et les honneurs faits à ce dernier par Barack Obama en sont la confirmation. Outre Temelín, l'appel d'offres lancé en 2009 par la compagnie d'électricité ČEZ, majoritairement détenue par l'État tchèque, inclut aussi une option à plus long terme sur la réalisation d'une tranche supplémentaire à Dukovany, la seconde centrale nucléaire existante en République tchèque, et de 2 autres encore à Jaslovské Bohunice en Slovaquie. 3 groupes conduits respectivement par le français Areva, le nippon américain Westinghouse et le tchéco-russe Škoda, Guido Press et Atom Stroy Export sont en course pour cette commande énergétique parmi les plus importantes dans le monde, dont le montant total est évalué à 20 milliards d'euros. Le vainqueur devrait être désigné en 2013, soit 1 an donc après le dépôt des offres, et la meilleure des 3 offres sera choisie selon des critères bien définis, comme les résume le directeur général de ČEZ, Daniel Beneš.
Pour dire les choses le plus simplement possible, le prix, les conditions techniques, à savoir le transfert du savoir-faire qui nous permettra de continuer à améliorer la centrale et la participation des entreprises tchèques aux travaux de construction sont pour nous les principales conditions. Nulle part ailleurs dans le monde, la construction d'un réacteur nucléaire ne fait l'objet d'un appel d'offres. Le plus souvent, les contrats signés résultent d'accords passés entre les gouvernements des pays concernés. C'est pourquoi le dossier Temelín est une nouveauté, quelque chose d'inhabituel pour les 3 groupes candidats que nous avons retenus. Mais nous leur faisons confiance et surtout c'est le moyen le plus transparent de choisir la meilleure offre.
La réalisation des 3e et 4e tranches à Temelín devrait permettre la création d'environ 4 000 emplois, y compris dans les hôtels, les restaurants ou encore les écoles. Mais le gouvernement ne semble pas prêt à payer n'importe quel prix pour cela, si l'on en croit son responsable en charge du dossier Temelín, Václav Bartuška.
Notre intérêt est que la plus grande partie du prix soit fixe. C'est une condition essentielle pour nous et qui pose un gros problème aux 3 candidats. Mais c'est leur affaire. Nous disons clairement que nous pouvons tout à fait décider en 2013 de n'accepter aucune des 3 offres si aucune d'entre elles ne répond à nos conditions.
L'achèvement de la centrale de Temelín garantirait à l'avenir à la République tchèque son autosuffisance énergétique, à la différence d'un certain nombre de pays européens dépendants des importations d'électricité. Le fonctionnement à plein de la centrale lui permettrait également de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, en abandonnant notamment ses centrales thermiques au charbon.
La Palestine est devenue lundi en début d'après-midi membre à part entière de l'UNESCO. L'autorité palestinienne jouissait jusqu'à présent d'un statut d'observateur auprès de l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et sa demande d'adhésion a été validée par un vote au siège de l'organisation à Paris. 107 pays ont voté pour, 52 se sont abstenus. La République tchèque fait partie, avec notamment les États-Unis, l'Allemagne et le Canada, des 14 États qui ont voté contre cette adhésion. Nous sommes en ligne avec le directeur politique du ministère tchèque des Affaires étrangères, Pavel Fischer, bonjour. Alors, pour quelles raisons la République tchèque a-t-elle voté contre cette adhésion de la Palestine à l'UNESCO ?
Pour nous, des paramètres nombreux étaient en considération. Le premier, c'était un mauvais timing, c'est-à-dire au lendemain, quelque part, de l'Assemblée générale de l'ONU, dans laquelle le président Mahmoud Abbas a remis sa demande d'adhésion à l'ONU, qui est aujourd'hui traité donc par le Conseil de sécurité, doublé cette initiative par une démarche au sein de l'UNESCO n'avait pas beaucoup de valeur ajoutée. Au contraire, ça risquait d'affaiblir l'UNESCO et tout le système de l'ONU avec. Car doubler le travail du Conseil de sécurité, tant qu'il n'est pas encore terminé, risque de produire une sorte de confusion. L'UNESCO et en même temps peut-être cette demande de la part de l'autorité palestinienne elle-même risquerait d'être affaiblie quelque part par ces circonstances. Deuxième aspect, pour nous, la clé pour la paix entre les deux parties au Proche-Orient se trouve dans le renouvellement des négociations directes. Et ce renouvellement doit être sans tarder dans les paramètres statués par le quartet. Et ce chemin ne mène pas au résultat si on fait une sorte de bifurcation à travers Paris et le siège de l'UNESCO. Au contraire, il faut vraiment entamer ces débats, aussi difficiles soient-ils. Et pour ce qui est de la République tchèque, nous avons suivi avec beaucoup de soin les préparatifs pour la prise de décision commune de l'Union européenne. Nous avons partagé nos analyses, nous avons préparé notre démarche qui était à réunir tous les pays, tous les États membres dans l'abstention commune. Et au moment où cette abstention n'était pas permise, ça s'est apparu le lundi matin, hier matin, nous avons donc pris notre décision, mais c'était a posteriori de cette dislocation d'une position commune.
Cette position commune semble très très difficile à obtenir. L'Europe est très divisée sur le dossier israélo-palestinien. Alors la République tchèque n'a pas été le seul pays européen à voter non. Il y a également l'Allemagne et la Suède. D'autres se sont abstenus. D'autres ont voté pour, comme la France, l'Espagne ou la Grèce. Alors est-ce que avec cette division qui apparaît à nouveau au grand jour lors d'un tel vote, est-ce que l'Union européenne a encore un rôle à jouer dans le processus de paix?
Décidément, mais c'est un travail qui se prépare et qui n'est pas le fruit d'un coup de baguette magique. Je dois dire que ce n'est pas non seulement les capitales, les États membres, mais c'est aussi le travail de service d'action extérieure commune qui est en jeu, et je crois que tout prend son temps. Et Cathy Ashton, comme la haute représentante, a joué un rôle, elle a trouvé un rôle qui a une vraie valeur ajoutée dans les négociations entre les parties du conflit. Malheureusement, l'UNESCO n'était pas bien calé pour quelque part réunir le consensus, parce que déjà le timing était mauvais et une bonne partie des États membres souhaitaient tout simplement le report ou bien l'annulation de ce vote. Et ce n'a pas pu être obtenu, et par manque de temps, je vous signale que la conférence de l'UNESCO s'organise tous les 2 ans et cette année elle a, je crois, 99 points à l'ordre du jour à être votés. Malheureusement, l'UNESCO n'était pas prêt, peut-être, à un tel débat politique stratégique de premier plan qui est donc le processus de paix au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs le travail du Conseil de sécurité qui avance et qui n'est pas encore terminé.
On devra en savoir plus dans les prochains jours. Merci beaucoup, Pavel Fischer. Je rappelle que vous êtes le directeur politique du ministère tchèque des Affaires étrangères. Merci et bonne journée.
Bonne journée à vous. Au revoir.
Et on passe à la deuxième partie du programme en français de Radio Prague avec la rubrique Panorama. Et aujourd'hui, la rediffusion d'une émission, d'un reportage diffusé en janvier dernier. Un reportage signé Anna Kubishta. Si elle est moins bien nombreuse qu'en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, il existe cependant une petite communauté arabe en République tchèque, loin des problèmes d'identité et d'intégration que peuvent vivre les pays d'Europe de l'Ouest en République tchèque. Les musulmans vivent leur foi et leur culture sans contrainte, même s'ils se heurtent aussi parfois à l'ignorance de la société tchèque. C'est donc la rediffusion du reportage signé Anna Kubišta.
Panorama.
Panorama.
Neuvième arrondissement de Prague, à deux pas des sorties d'autoroute de la capitale tchèque. C'est là, aux abords d'une quatre voies, entre un garage et une casse auto, que se trouve le centre islamique de Prague, qui abrite surtout un lieu de prière. Dans le cadre d'une journée portes ouvertes au public, Emir Omic, son imam, d'origine bosniaque, accueille un petit groupe de Tchèques curieux de découvrir le lieu de culte. Tout comme celle de Brno, deuxième lieu de prière musulman du pays, la création de ce qu'on appelle la mosquée de Prague est le résultat d'une longue bataille. Longtemps ballottés d'un endroit à l'autre, les musulmans peuvent enfin pratiquer le culte dans un lieu fixe depuis la fin des années 90, même si sur le papier, il ne s'agit pas officiellement d'une mosquée, comme le rappelle Lazar Mamry, président de la Fondation islamique à Prague.
En 97, plus précisément, on a un de nos frères vivant ici à Prague. Il a acheté un endroit pour reconstruire ou bien pour faire un... À l'époque, c'était l'idée de créer une mosquée, mais c'était impossible. Donc au moins, un centre islamique. Et on a... En 1999, la reconstruction était terminée et on s'est pour regagner Prague 9, où on a commencé un long chemin, c'est-à-dire le chemin du centre islamique, le plus grand centre islamique ici à Prague, même en République tchèque, parce que nos frères à Brno, ils ont construit aussi un centre, ou bien une petite mosquée, quand même, je peux le dire, même une mosquée. C'est une petite pour 120, 200, pas plus. Mais nous, on a un endroit plus vaste, un endroit qui s'établit sur une superficie de 2000 mètres carrés. C'est une. Relativement, c'est une grande surface. Et la fondation qui a été créée en 1993 a commencé à pratiquer ces tâches, c'est-à-dire de faire regrouper les gens, les musulmans, autour d'elle, d'organiser des prières. Les saintes prières, c'est-à-dire toute la journée. Elle a aussi assuré deux imams, c'est-à-dire, on n'a pas parlé d'un imam, deux imams, il y en a un de la Bosnie et l'autre du Yémen.
La communauté arabo-musulmane n'est pas très grande en République tchèque. 10 000, ce serait le nombre de musulmans dans le pays, parmi lesquels quelques 3 000 pratiquants. Une grande majorité des membres de la communauté arabe sont d'anciens étudiants arrivés dans le pays sous le communisme. Certains ont fait leur vie en République tchèque, comme Lazar Mamry. L'absence de problèmes d'intégration, comme il peut y en avoir en France, est pour lui très simple à expliquer.
L'avantage qui existe actuellement, c'est la communauté, comme vous avez dit, c'est une, elle est constitué d'une partie de 75 jusqu'à 80% des gens instruits, des gens qui ont terminé ses études ici en République tchèque. C'est-à-dire qu'ils connaissent la société tchèque, qu'ils ont des relations avec les citoyens tchèques, des relations directes ou bien des relations indirectes. C'est-à-dire directes, ils se sont mariés avec des Tchèques. Indirect, ils travaillent dans des sociétés tchèques, ils ont des amis tchèques. Dans ce cas-là, on n'est pas venu ici comme des immigrés, comme par exemple en France ou bien en Allemagne. Nous ici, la majorité, ce sont des étudiants. C'est-à-dire, ils ont une base. Ils savent qu'est-ce que ça veut dire être dans une société qui ne connaît pas l'islam, une société où il faut parler de l'islam. Il faut faire reconnaître aux gens qu'est-ce que ça veut dire l'islam, pratiquement et théoriquement. C'est ça l'avantage qui existe chez nous aussi dans cette communauté en République tchèque. Les inconvénients, c'est chaque personne, il a des inconvénients. Les inconvénients, ce sont les comportements de quelques musulmans ici, surtout à Prague. Surtout à Prague, parce qu'à Prague, c'est la capitale qui regroupe tous les gens. C'est différent.
C'est un melting pot.
Voilà. Et parce que s'ils font des dégâts, c'est toujours c'est nous qui payons. C'est pas eux. Parce qu'ils viennent à la mosquée, ils sont considérés comme une partie de la mosquée ou bien une partie de la fondation.
D'autres encore sont arrivés après 1989, mais plus pour faire du commerce, comme Kader, qui rappelle pourquoi il a ouvert une épicerie dans le centre-ville de Prague.
Parce qu'avant, comme ce genre de magasin n'existe pas ici en Prague, c'est pourquoi c'était une idée et c'était une bonne idée parce que beaucoup de gens sont intéressés à notre produit, les Tchèques, et les Français, les étrangers ici, d'une façon générale. C'est pourquoi je suis ici, pour faire un capital et pour retourner définitivement au Maroc.
Une deuxième vague d'immigration plus économique qu'autre chose, puisque, comme Kader, la plupart espèrent rentrer un jour au pays. Pratiquer sa religion, manger halal n'est finalement pas un problème aujourd'hui pour les musulmans de République tchèque. Beaucoup s'accordent à dire que côté tchèque, il y a finalement plus d'indifférence et de méconnaissance que de racisme à proprement parler. Et puis au cœur du pays le plus athée d'Europe, même les signes extérieurs religieux n'offusquent guère. Lazar Mamri.
Être musulman ici, c'est très simple. Très simple. On pratique nos cultes sans problème. Question de la viande halal, on a de la viande halal. Question de faire la prière, les 5 prières pendant toute la journée, on fait la prière. Et partout. Hein. Ce n'est pas uniquement à Tcherny Most, dans l'endroit où il y a le siège de la fondation. On peut faire la prière partout. Et personne nous l'empêche. Personne. Moi, j'ai fait la prière au parc. C'était l'heure de la prière. J'ai fait la prière. Il y avait des policiers à côté de moi. Ils circulaient. Donc, dans ce domaine, je peux dire qu'on a plus de liberté que dans les pays, d'autres pays, comme l'Allemagne ou bien comme la France. Là-bas, il y a une grande communauté, mais ici, on a une petite communauté. Et d'un côté, on est respecté, et de l'autre côté, on est considéré comme des étrangers.
Racha Edar a 24 ans. Elle est tchèque, née à Prague, mais ses deux parents sont syriens. Bilingue, elle a grandi dans une double culture sur tous les plans.
Par exemple, on fête Noël, même si pas de la même façon que les autres tchèques. Mais on décore le sapin, on se fait un bon dîner, parfois on regarde la télé ou on va se balader en ville. On fête les fêtes tchèques et les fêtes arabes. Le ramadan aussi, on essaye de le respecter. Même si pour moi, en tant qu'étudiant, c'est difficile. J'arrive à ne pas manger, mais ne pas boire, c'est trop dur. En République tchèque, c'est beaucoup plus dur à suivre qu'en Syrie.
À l'école primaire, on la prenait pour une Rome, minorité la plus sujette au rejet et au racisme en République tchèque. Avec le temps, Racha a passé outre les amalgames faciles, même si elle reconnaît que l'après 11 septembre a été un peu dur à vivre.
Après le 11 septembre, j'étais plus âgée, mais mon frère, plus jeune, l'a mal vécu. Il faisait partie d'une chorale et les autres se moquaient de lui en disant qu'il cachait Ben Laden sous son lit. Ils étaient vraiment pas sympas avec lui et il revenait en pleurs à la maison. C'est pour cela que j'ai choisi de m'orienter vers des études internationales parce que si j'avais fait un cursus classique, j'aurais retrouvé les mêmes personnes.
Si Racha aime la République tchèque qu'elle considère comme son pays, son but, c'est partir travailler à Bruxelles ou à La Hague, comme d'autres jeunes tchèques issus d'une double culture, ceux de la communauté arabe tournent leur regard au-delà des frontières de leur pays.
C'était un reportage signé Anna Kubishta. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité.